Lyon Demain, média agitateur d'idées.
Le centre historique de Lyon est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 98. Pour autant, la ville n'est pas condamnée à rester figée. Si des éléments du patrimoine sont préservés, de nouveaux bâtiments se construisent et ils doivent respecter l'histoire de la ville, bien sûr, mais tout en s'adaptant aux contraintes contemporaines. Et parmi ces contraintes, il y a bien sûr le réchauffement climatique. La ville de Lyon a mis en œuvre une nouvelle charte urbaine et architecturale pour une ville soutenable. Chaque bâtiment doit désormais participer à la transition écologique. Les objectifs de la ville en matière de transition vont donc se traduire dans les projets d'urbanisme, comme nous l'explique Raphaël Michaud, l'adjoint à l'urbanisme de la ville de Lyon.
Pour l'instant, on consacre une méthode, vraiment une qualité du dialogue qui était là en place depuis 30 ans. Et on va ajouter à cette méthode des éléments fondamentaux sur la qualité d'usage et sur la qualité environnementale. Donc on va vraiment travailler sur un escalier qui donne envie de prendre l'escalier, sur des balcons très généreux, sur des espaces où on puisse être heureux d'habiter, où on se sente suffisamment confortable pour pouvoir supporter quels que soient les dérèglements climatiques qui nous viendront. Tout l'enjeu, c'est la densité végétale associée à une densité de la construction. Pour l'instant, la ville de Lyon est déjà très constituée et ce qu'on observe, c'est que les nouvelles constructions vont être l'occasion de débitumer, de débétoniser et de retrouver de la pleine terre. Et cette pleine terre va permettre juste à côté d'aller construire et d'aller construire dense et d'avoir une qualité pour les usagers de ces bâtiments.
Cette charte, elle s'impose à qui ? Et est-ce qu'on ne va pas ralentir le processus de délivrance, par exemple, des permis de construire ?
Cette charte prend des engagements sur la durée. On a pris un engagement que la durée moyenne de l'ensemble des demandes qui pourraient être formulées sera de 12 mois. 12 mois entre le moment où le porteur de projet vient voir la collectivité et le moment où la collectivité délivre son autorisation. Donc ce cadencement-là, si on prend en compte l'ensemble des éléments d'instruction et l'ensemble des éléments préalables, ça va permettre de donner du rythme et éviter les flottements qu'on avait jusqu'à présent et le côté parfois discrétionnaire qu'on pouvait observer sur les permis.
Parmi les signataires de la charte, les bailleurs sociaux. Le logement social va devoir lui aussi se soumettre aux nouvelles contraintes. Anne Warsmann est la présidente de l'association des bailleurs constructeurs du Rhône et de la métropole, ABC HLM.
Sans que ce soit exhaustif, ça peut être la nature des matériaux, la conception en elle-même des logements. Ça va être également dans la partie études préalables. Sans doute beaucoup mieux la prise en compte du confort d'été qu'on faisait jusqu'à maintenant, puisqu'on était beaucoup plus sur des sujets de réduire les charges de chauffage, etc. Maintenant, on va beaucoup travailler sur le confort d'été. Donc, ça amènera à mieux regarder l'orientation des logements, leur isolation pour le confort d'été, par exemple.
Cette charte existe depuis 2006, mais le document revisité mise sur une méthode de travail partenariale pour viser la sobriété carbone. La charte n'a toutefois pas de valeur contraignante. Certains acteurs de la construction, et pas des moindres, comme la puissante fédération BTP Rhône, ont d'ailleurs carrément refusé de signer la charte, estimant qu'il s'agissait de contraintes supplémentaires qui pourraient devenir un frein à la construction. Une augmentation du coût de construction est prévisible, reconnaît Christiane Agara, présidente du CAUE Rhône Métropole, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement.
Il va falloir qu'on arrive à trouver l'équilibre entre une construction qui soit respectueuse des normes environnementales et un équilibre économique, parce que le coût des matériaux nous fait beaucoup réfléchir et nous inquiète. L'équilibre, c'est peut-être aussi entre, quand si on prend un logement, un immeuble d'habitation, entre le nombre de logements que l'on veut construire et puis la qualité des matériaux que l'on va utiliser, parce que ces nouvelles méthodologies de construction vont engendrer non seulement des matériaux nouveaux, mais des méthodes de construction différentes qui obligent à des formations du personnel qui utilise et qui construisent, qui bâtissent. Les bâtisseurs vont devoir réapprendre à bâtir. Donc, il va y avoir, je pense, un temps de latence entre pour que l'adaptation se fasse entre les bâtisseurs et puis ce que préconise la charte.
L'aménagement de la ville est l'affaire de tous, architectes, promoteurs, bailleurs, aménageurs, propriétaires, acteurs de l'immobilier et du bâtiment, habitantes et habitants. La ville de Lyon s'attache aussi désormais les services d'un environnementaliste conseil chargé de veiller à la qualité d'usage de chaque projet. Lyon est en quelque sorte un laboratoire pour la fabrique de la ville. Un programme de recherche et de formation doctorale a été mis en place par l'Université de Lyon jusqu'en 2025. Financé par l'État, il permet de travailler sur le lien entre urbanisation et changement global. Michel Lussault est le directeur de l'École urbaine de Lyon. Nous l'avons rencontré.
Le changement climatique, par exemple, dont nous sommes très familiers, est directement lié au développement de l'urbanisation planétaire et aux impacts des activités urbaines, qu'on songe au transport, à l'industrie, l'industrie, etc., sur le système climatique de la planète Terre. Donc les liens sont évidents, mais il faut encore les documenter scientifiquement, et c'est ce que nous essayons de faire.
Et vous prenez une nouvelle relation, un travail plus coopératif, justement, pour faire évoluer la ville. On a trop travaillé l'un à côté de l'autre et pas avec l'autre.
Oui, à partir de nos travaux de recherche, nous essayons évidemment d'avoir une implication sociale, hein, c'est le rôle des chercheurs aussi, et de dire, bon, il faudrait peut-être inventer de nouvelles manières de fabriquer la ville et d'organiser la ville. Et pour cela, nous mettons en avant notamment la nécessité de changer les pratiques, de changer ses habitudes, mais aussi la nécessité de coopérer, c'est-à-dire de passer peut-être d'un système de compétition, un peu de lutte de chacun contre chacun, un système beaucoup plus coopératif, parce que l'ampleur des sujets qu'on a abordés exige cette coopération. Et c'est pour ça que cette charte me paraissait aller dans le bon sens.
Alors justement, cette charte urbaine, en quoi elle va faire avancer les choses ?
Bien, d'abord parce que c'est justement une démarche coopérative qui réunit des acteurs politiques, des acteurs privés, des acteurs publics, pour se poser la question de la qualité urbaine. Comment produire de la qualité urbaine, comment faire en sorte que, de nouveau, les habitants aient plaisir à résider en ville et qu'il y ait un désir de ville, comme dirait l'autre. Et ça, c'est un premier point. Puis la deuxième chose, c'est que c'est une charte qui essaye de comprendre justement comment la construction est un élément clé de la transition environnementale et de la transition écologique. Donc je pense que c'est une charte qui est un premier pas vers la définition de ces nouvelles manières de faire.
Mais cette fabrique de la ville, elle a aussi une limite, c'est le défi économique aussi, hein.
Alors, un des enjeux, tout à fait, c'est de faire en sorte que cette transition environnementale soit également une transition économique, c'est-à-dire permettre d'inventer de nouvelles activités. On commence à voir ces choses-là arriver, il y a encore un gros effort à faire, mais c'est normal, nous sortons de plus d'un siècle, en quelque sorte un siècle et demi, peut-être deux siècles, d'un système économique, et il faut changer de système économique. Mais replaçons-nous au début du 19e siècle, eh bien finalement, nos aïeux continuent. Ils ont inventé un nouveau système économique en quelques décennies sur lequel nous avons vécu. Eh bien, nous avons peut-être la même chose à faire. Ça n'aboutira peut-être pas dans les 6 mois, mais c'est un travail de longue haleine et qu'il nous faut engager. Je pense qu'il nous faut inventer une nouvelle manière de produire de l'activité économique, de produire de la richesse et de distribuer la richesse. Et je suis tout à fait confiant sur notre capacité d'y parvenir.
Vous êtes en train de nous dire que les urbanistes ont un rôle important à jouer également dans la crise sociale qu'on traverse ?
Mais bien sûr, vous savez, la construction urbaine, quel que soit le type de construction et quel que soit le type d'espace, les villes-centres comme les périphéries, la construction urbaine, c'est un moteur de l'économie urbaine. C'est un moteur de la production de valeur. Bon, ben, quand vous voulez faire une politique sociale, vous avez besoin d'avoir une richesse accumulée que vous pouvez redistribuer. Donc, on voit très bien qu'il faut placer la construction au cœur de nos réflexions. Et j'ai l'impression qu'il y a une aspiration de tous les acteurs pour ça aujourd'hui. J'ai entendu les représentants des promoteurs, les représentants des constructeurs, les architectes, les paysagistes, il y a une prise de conscience de la nécessité de faire évoluer les références et les pratiques. Et cette charte accompagne cette prise de conscience.
Cette innovation, ça peut se traduire comment concrètement ? Un exemple qui vous passe par la tête là.
Bien, ça peut se traduire par exemple par une réflexion sur le type de matériaux qu'on utilise pour construire. Hein, sommes-nous capables d'utiliser des matériaux biosourcés avec un meilleur impact environnemental ? Sommes-nous capables d'utiliser des matériaux facilement recyclables ? Sommes-nous capables de bien traiter par exemple les déchets de la construction ? Hein, quand on détruit, comme on détruit en ce moment dans le quartier Pardieu, et c'est très bien de le faire, que faisons-nous des gravats ? Sommes-nous capables de gérer ça ? Sommes-nous capables aussi de trouver une autre relation entre les espaces artificialisés et les espaces de pleine terre ? Pouvons-nous réintroduire de la diversité écosystémique dans nos villes ? Sommes-nous capables donc de lutter contre les effets de chaleur que nous connaissons ? Pouvons-nous construire des logements plus grands, mais pas plus chers ? Des logements plus confortables ? Pouvons-nous réinsérer de l'activité économique dans les immeubles résidentiels ou réinsérer des résidences dans des immeubles économiques ? Vous voyez, il y a énormément de sujets qui sont très concrets. Ce n'est pas du tout des sujets abstraits, c'est des sujets, j'allais dire, extrêmement concrets. Et chacun de ces sujets peut nourrir, doit nourrir une réflexion et une coopération pour arriver à construire mieux, pour améliorer la qualité urbaine.
Et pour conclure, on entend souvent les politiques dire, par exemple, il faut débitumer dans les villes, les cours d'école, les choses comme ça. C'est un peu de la poudre aux yeux, ça, ou est-ce que ça participe quand même ?
Non, ça participe. Je crois qu'on a confort et par facilité, on a beaucoup bitumé, on a beaucoup asphalté, en utilisant d'ailleurs des asphaltes noirs souvent, qui sont très dommageables en période de chaleur. Je pense qu'on peut très aisément retrouver le sol, pas partout, pas tout le temps, il y a des moments où ça n'a aucun sens, hein, mais dans les cours d'école, il y a des expérimentations qui ont été menées qui montrent que débutimer les cours d'école, ça permet de faire baisser de près d'un degré la température moyenne, et un degré en période de canicule, c'est considérable. C'est ce qui permet de ne pas trop souffrir. Le degré de plus, vous savez, c'est le degré qui vous fait souffrir. Je rappelle qu'au-delà de 37 degrés, on entre dans ce qu'on appelle les chaleurs létales, hein, c'est-à-dire l'être humain peut être très gravement compromis dans sa viabilité par ces chaleurs-là. Mais parfois, évidemment, il est hors de question de désasphalter, ça n'aurait aucun sens. Donc je crois que là aussi, c'est une question de coopération pour définir au cas par cas ce qui est possible et ce qui est nécessaire. Ça nécessite une capacité de travail collectif et de faire les bons diagnostics et de trouver les bonnes solutions.
Vous qui dirigez l'école urbaine de Lyon, pensez que la ville de Lyon, justement, est un bon terrain de jeu pour vous ?
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé cette école urbaine de Lyon ici, hein, pour dire qu'il y a à Lyon une métropole qui est un terrain tout à fait intéressant, parce que c'est une métropole de 1 400 000 habitants qui concentre en quelque sorte toutes les qualités et tous les défauts de l'urbanisation contemporaine. Donc j'ai l'habitude de dire, quand on observe Lyon, on comprend tout des défis auxquels sont confrontées les villes d'aujourd'hui. Donc c'est un formidable terrain de jeu pour le chercheur, mais c'est un formidable terrain d'expérimentation pour les acteurs.
Michel Lussault, directeur de l'école urbaine de Lyon. À l'école de l'Anthropocène, c'est un événement annuel organisé par l'école urbaine. La 4e édition se déroulera en janvier 2022 dans la métropole de Lyon. Ouverte à tous les publics, elle permettra de débattre et de construire des propositions autour de la ville de demain.